Ouellet.
Bravo.
En direct.
Bravo en passant.
En direct. Avec JC.
En direct.
Et Patricia.
Radio.
Radio.
X.
Eh bien, il fallait que ce jour arrive. Et ce jour est arrivé, mesdames, messieurs, pour la première fois. Vous aurez droit à une chronique dans Ouellet en direct entre deux séparatistes.
Ah là, vous autres.
Pas nécessairement d'accord sur le fond, mais d'accord sur le principe, je pense. Mais là, je lève le micro et je laisse entrer notre chroniqueur Jean-François Lisée, puis je lui demande comment ça va, M. Lisée.
Ben, moi, ça va tellement bien parce qu'il y a un séparatiste de plus. Tu sais que si on gagne à 50 plus 1, c'est peut-être toi le plus
1. C'est moi le plus 1. Je vais te voir une statue, quelque chose.
Non, mais vous êtes dans, je pense, dans 20% les gars. Vous êtes même pas proche de 50.
Non, mais la discussion...
Vous êtes 8 dans votre clan.
Bon, exagère pas. Bon, regarde là, tout de suite, les raccourcis, le dénigrement.
Des rabat-joie. C'est des rabat-joie.
Ouais. Vous étiez 10, vous étiez tout excité, ça fait peur au monde, vous êtes revenu à 8.
Je t'avais de l'appeler Madame Carney, là. Ça s'en vient.
Hey, wow! Je lève pas mes coudes quand je danse.
Bon, mais sérieusement, là, une chance. C'est pas chic. Non, mais sérieusement, moi, par contre, je me laisse toujours les portes toutes ouvertes. Puis, M. Lisée, je sais que vous l'avez vu passer en fin de semaine, là. Comment on prend ça quand on est quelqu'un qui veut prendre sa place dans le Canada? D'une façon plus radicale ou moins, là, mais tu sais, je pense que l'ensemble des Québécois aimeraient avoir plus de contrôle sur leurs règlements, leurs lois, sur leur peuple, leur nation, la façon dont on vit chez nous. Comment on prend ça, la sortie d'Éric Duhaime? Je lui ai parlé d'ailleurs en intro, dans le show, sur l'autonomie. On revient à quelque chose qui, pour moi, est quand même assez tangible. C'est palpable, ça, non?
Ben, c'est-à-dire que la troisième voie, là, parce qu'Éric, maintenant, se réclame de la troisième voie, l'autonomie, c'est un produit défectueux que les électeurs s'acharnent à vouloir acheter à chaque élection. Alors, donc, c'est un produit défectueux. Pourquoi? C'est parce que depuis Jean Lesage, on n'a jamais réussi à augmenter significativement la place du Québec au sein du Canada, le nombre de pouvoirs. On a à la marge, à peu près à tous les 5 ans, il y a un morceau qu'on réussit à arracher. M. Bouchard avait eu la main d'œuvre. Ensuite, M. Bourassa avait eu une partie de l'immigration. Là, ils nous en ont repris un bout, etc. Bon. Mais là, les propositions qui étaient celles de François Legault et maintenant d'Éric Duhaime, de dire, ben nous, on va faire un changement significatif de notre place au sein du Canada, ça a été essayé, ça n'a pas marché. Ben, non, je lui ai parlé la semaine dernière.
Oui, j'ai lu ton texte.
Il m'a dit, oui, mais un référendum sur la souveraineté aussi, ça a été essayé, puis ça n'a pas marché.
Effectivement.
J'ai dit là... T'as un bon point, Éric, t'as un bon point. Mais la différence entre les deux, c'est que le succès d'un référendum ne dépend que des Québécois et le succès de l'autonomie québécoise dépend des autres Canadiens. Ouais. Ça, c'est une grosse différence.
Par contre, et là, on va même mêler René Lévesque dans l'équation. Parce que je comprends ton truc de on l'a essayé. En même temps, ce que nous a présenté François Legault, puis tu l'admettras là, comme plan de troisième voie, il l'a pas fait. Il a fait exactement le contraire. Il nous parlait de ressources naturelles, il nous parlait d'autonomie financière, de mettre des employés de l'État dehors, de refaire l'ingénierie, même si ça a déjà été essayé 3-4 fois. Ça aussi, on l'a. En fait, beaucoup de ce qu'on fait aujourd'hui a déjà été essayé 3-4 fois là, dans notre histoire de peuple. Mais le bout que j'aime beaucoup, c'est celui de la clé de bras. Quand René Lévesque est revenu fâché, incapable de signer quoi que ce soit avec le Canada, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, parfait, la clause dérogatoire, vous la voulez, on va l'utiliser. À chaque fois qu'on va faire un règlement, une loi, une décision, on va y coller la clause dérogatoire sur les fesses. Pourquoi on a arrêté de faire ça?
Alors, donc, je sais que, bon, d'abord, c'est parce que la charte nous a été imposée dans la Constitution qui nous a été imposée. Donc, Lévesque a fait ça. Lorsque Bourassa est arrivé, eux, ils essayaient de négocier Meech. Et ils avaient discuté, est-ce qu'on devrait continuer à mettre la clause dérogatoire parce que cette constitution, on ne l'a pas signée, donc on essaie de renégocier quelque chose. Et ils avaient choisi de ne pas le faire comme geste de bonne volonté, ou je ne sais pas si dans le caucus libéral, il y aurait eu un consensus pour ça, mais en tout cas, ça a été écarté, entre autres parce qu'ils pensaient régler l'affaire, mais ils ne l'ont pas réglé. Donc, ils sont revenus là-dessus.
Pourquoi on n'est pas revenu avec ça?
Ben, parce qu'ils étaient trop fédéralistes. Mais écoute, Robert Bourassa, sur la loi 101, il avait modifié la loi. Sur la loi 101, il attendait que la Cour suprême se prononce. La Cour suprême a dit l'affichage unilingue français, c'est inconstitutionnel. Et là, lui a voté une loi qui disait qu'il fallait que ça soit... ça pouvait être bilingue à l'intérieur, mais unilingue à l'extérieur. C'était la règle inside-outside. Il a mis la clause dérogatoire. Et là, il a perdu 4 députés, dont 2 ministres, qui ont créé le parti Égalité. Et là, ça a créé un ressac tellement fort en Ontario qu'il y a une dizaine de villes et de commissions scolaires qui se sont déclarées unilingues anglaises.
Wow.
Puis c'est là qu'il y a une gang de malades dans la ville de Brockville qui se sont essuyés les pieds sur le drapeau du Québec. Et ça a contribué à l'échec du lac Meech.
Mais là, tu me parles de libéraux, là. Puis ouais. J'en suis conscient, c'est des fédéralistes. Pourquoi ouais. est-ce qu'un parti québécois de retour, puis t'en as fait partie, ou pourquoi est-ce que Legault a pas appliqué cette stratégie-là? Moi, je me suis frappé le front en fin de semaine en disant, ben oui, pourquoi on fait pas ça? Donc, Ottawa aura jamais le choix de toujours renégocier tout, puis de toujours nous donner un levier. On l'a, le levier. Il s'appelle la clause dérogatoire.
Ben, c'est-à-dire, tout ce que la clause dérogatoire fait, c'est empêcher les tribunaux fédéraux d'invalider certaines de nos lois. Il y a quand même des aspects de la charte qui s'appliquent, même sur la question linguistique, ouais. par exemple, qui ouais. s'appliquent parce que la clause dérogatoire ne couvre pas la totalité de la charte, mais au moins ça soustrait. Mais ça nous donne pas... c'est-à-dire, ça nous donne un pouvoir supplémentaire face aux décisions des tribunaux. Ça nous donne pas de pouvoir de plus en immigration ou en langue ou
non,
en
quoi que ce soit d'autre. Non, je comprends, mais c'est un levier pour aller... Regarde, tu veux que je t'en donne, donne-moi-en. C'est parce que moi, le problème que je vois souvent au Québec, c'est qu'on n'a pas de leverage. On n'a mm-hmm. rien pour faire pression. On n'a rien pour dire, si tu me le donnes pas, je fais ça. On est assis puis on se laisse faire, tu sais. Alors qu'il me semble...
Tu verrais comme une monnaie d'échange.
Bien, comme une façon de, excuse l'expression très québécoise, de faire chier.
Alors, ça, c'est sûr que ça marche, OK? Mais disons que ton objectif central, c'est d'avoir tous les pouvoirs en immigration, OK?
Ouais.
Ça fait que là, tu dis, bon, je mets la clause dérogatoire à toutes mes lois, sauf si vous me donnez les pouvoirs en immigration. Est-ce que c'est ça que tu dis?
On peut se négocier quelque chose?
On peut l'essayer.
Est-ce qu'on l'a déjà essayé?
Non.
Bon.
Non, parce que l'évêque, lui, il disait, il voulait rien en échange. Il disait, c'est pas notre constitution.
Ouais, ça va être comme
on,
ça.
On fait tout pour s'en soustraire.
Ouais. Et on le sait par en arrière, même si Mark Carney allait dire à Christine Fréchette là, qu'il n'y avait rien à voir là-dedans, on le sait que la clause dérogatoire est une grosse aiguille dans le talon du fédéral. Ils n'aiment pas ça. Et là, les autres provinces commencent à la prendre de plus en plus régulièrement. Éric Duhaime me dit « veut jaser avec l'Alberta ». Moi, tu vois, ce bout-là, j'y crois pas. T'sais, parce qu'il y aura toujours une majorité de provinces canadiennes accrochées sur la mamelle fédérale
exact.
Pour nous faire planter un autre couteau dans une très longue nuit de couteaux. Là.
Exact. Alors, c'est ça. Alors, donc, au moins, Éric, puis j'ai écrit là-dessus dans Le Devoir la semaine dernière, de tous ceux qui proposent de réessayer, c'est Éric Duhaime qui a la proposition la plus originale. Parce que lui, il dit, bon, moi, je suis premier ministre conservateur, OK? Puis je vais aller voir mes amis conservateurs en Alberta, en Saskatchewan. Peut-être en Colombie-Britannique, les conservateurs pourraient prendre le pouvoir.
Il ne m'a pas nommé l'Ontario, hein?
Non, parce que l'Ontario, c'est le Canada.
Oui.
OK? Oui,
oui.
Ils ne sont pas fiables dans les luttes pour l'autonomie. Mais les provinces de l'Ouest, elles, veulent généralement plus ouais, d'autonomie.
Ils sont tannés.
Mais ce qui se passe tout le temps, à la fin, c'est qu'il y a 6 petites provinces et 3 territoires. Eux, ils ne veulent pas jamais qu'on affaiblisse le pouvoir central parce qu'ils en ont vraiment besoin.
Ils en dépendent.
C'est ça. Et donc, l'architecture du Canada est faite pour maintenir le pouvoir du Canada.
Ben, écoute, moi, c'est ma réflexion, elle est faite dans le sens où le Canada ne me représente plus ni au niveau des valeurs, ni au niveau économique, ni au niveau de la rigueur, ni je vois plus rien là-dedans qui me rattache. Donc, si c'est pas la souveraineté, parce que là, on les voit, les sondages, ça fluctue, peut-être PSPP a jacké un peu trop haut, un peu trop tôt, comme on dit. On verra pour la suite. Mais si ça peut être une façon d'aller se chercher du pouvoir, d'aller chercher de l'autonomie, bien certainement que je vais ouvrir ma porte à cette suggestion-là. L'autre affaire, puis j'ai vu que tu voulais m'en parler aussi quand tu m'as réécrit tantôt, Charles Milliard, quel drôle de personnage. J'ai vraiment l'impression que le gars se demande quelles sont les valeurs du Parti libéral. Là, il nous parle de loi 96, il se fait taper dessus par les Anglos. Il dit « Ah, oh, ben là, je vais le faire, mais je vais la modifier. » Est-ce que Charles Milliard vient de réaliser qu'il a besoin de l'appui francophone pour gagner?
Écoute, ben... c'est vraiment... Oh, il y a une chose sur Charles Milliard, c'est qu'on avait l'impression que c'était un premier de classe. Ouais. Il donnait l'impression d'être un gars... qui connaissait ses affaires, un scientifique, un pharmacien. Bon. Et puis là, il s'est présenté en point de presse jeudi. Et là, on s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas un dossier clé qui était celui de la loi 96 puis l'application de la clause dérogatoire. Alors, c'est simple, là, la clause, tu la mets ou tu la mets pas à n'importe quelle loi, ça ne change rien à la loi. Ce que ça change, c'est les contestations devant les tribunaux.
Exact.
Alors lui, il ne savait pas ça. Et là, il dit aux journalistes qui lui posent des questions...
Mais il ne savait pas ça, moi, il pensait quoi?
Il dit, je veux enlever une couple de choses dans la loi 96. Par exemple, il y a trop de réglementations pour les petites entreprises pour se franciser. Ça, je veux enlever ça. Puis là, je vais voir si ça m'empêche de garder 96 ou non. Puis là, les journalistes qui connaissent ça, ils disent, mais non, ça n'a rien à voir. Tu peux changer ce que tu veux dans la loi. C'est juste, tu as décidé si tu gardes, la clause dérogatoire ou non. Puis là, apprenant ça des journalistes, il dit « Ah, ben dans ce cas-là, je vais garder la clause. Ben oui, mais ton parti n'a pas arrêté de nous dire qu'il était contre l'utilisation préventive de la clause. Et c'est ça que fait 96, c'est une utilisation préventive. » Ça que là, il est sorti du point de presse. Là, il y avait des appels de tous les quotidiens, tous les médias anglophones qui n'en venaient pas, qui aient changé de position. L'opposition était très ferme. Et puis, évidemment, les membres de son caucus. Puis là, il s'est rendu compte de ce qu'il venait de dire. Alors, puis là, il a changé de position deux fois. Maintenant, il dit, si c'est nécessaire, on va la garder, mais pas nécessairement. Alors, ce qui veut dire que c'est pas une position qui est très ferme. Mais moi, ce que ça m'apprend sur lui, c'est son niveau d'impréparation. C'est ça que ça m'apprend.
Bien, moi, de toute façon, ça fait un certain moment qu'on le regarde aller, là, quand même. Là, on peut dire qu'il est nouveau, mais là, ça fait plusieurs mois là, qu'il est sous la loupe, quand même. Même à l'époque de la course avec Pablo, on le regarde aller. Là. Moi, j'écoute ses suggestions. Est-ce que tu peux me nommer une proposition concrète de Charles Milliard? Moi, tu sais, me faire dire on va aller en états généraux sur l'éducation, écoute, là, c'est bien, on peut jaser pendant 8 ans. Ensuite, il nous dit il faut mettre les PME au cœur de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vraiment l'impression d'une espèce de fleuve vide de mots là, qui coule tranquillement. Là.
Ben, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu de proposition, c'est, par exemple, avoir de la télémédecine 7 jours sur 7, 24 heures par jour.
Oui.
Mais je ne sais pas encore où ils vont trouver les médecins. Bon.
Encore, là, je veux dire, est-ce que le temps d'attente va vraiment diminuer dans les urgences? Je sais pas,
c'est ça. Alors, est-ce que c'est seulement quand tu as ton rendez-vous 3 mois plus tard que tu le vois en télémédecine? En tout cas, ça, la télémédecine, il a dit ça.
Très flou.
Et puis, il y avait 3 choses qui étaient la même chose que Christine Fréchette. Donc, on a demandé, vous êtes un clone de Christine Fréchette? Ben, je l'avais dit avant.
Je l'ai dit avant. Mais, par contre, probablement que Christine Fréchette a déjà fait ça avant parce qu'elle nous l'a dit, elle a fait beaucoup de choses. Elle a eu plusieurs premiers jobs, elle a travaillé dans plusieurs endroits, puis c'est une hydro-québécoise.
Oui, c'est vrai.
Elle a tout fait. Merci, Jean-François. Toujours un plaisir.
À la prochaine.
Salut, bye.
Bye.
Jean-François Lisée, 14h05, si vous voulez acheter les livres ou lire les textes de Jean-François Lisée, c'est sur son site, laboitealisée.com. Petite pause. Au retour, oui, on est rendu là. On va parler du Canadien de Montréal.
Willette. En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.